Brenda Davis se souvenait encore de moi. Nous ne nous étions rencontrés qu'une seule fois, près de 6 ans auparavant, quand j'avais repris le suivi psychiatrique de ma sœur et que j'avais interrogé Brenda pour les besoins de mon enquête préliminaire sur les antécédents de ma patiente. À l'époque, la conversation avait exclusivement porté sur Shanna. Brenda ne sembla pas surprise de mon appel, ni du fait que je puisse avoir de nouvelles questions sur le meurtre de Donnie Johnson. Malgré un agenda mondain très chargé, elle était disponible si nous voulions passer tout de suite. Nous partîmes pour South Boston, Phil au volant. Sur la route, je lui demandai de faire un arrêt chez un traiteur italien pour acheter des pâtisseries. Ça paraissait la moindre des choses, étant donné que nous allions nous imposer chez une femme d'un âge désormais respectable pour parler d'une époque qu'elle avait certainement passé les 30 dernières années à essayer d'oublier. Brenda ouvrit la porte de sa maison délabrée et cligna des yeux sous la lumière du jour, alors même que le soleil était en train de se coucher et que la journée tirait à sa fin. « Docteur Glenn, » dit-elle immédiatement. Elle semblait avoir perdu des centimètres depuis notre dernière entrevue. Sa silhouette arrondie s'était voûtée et ses cheveux gris dressés sur sa tête lui donnaient l'air d'un hérisson dans sa robe de chambre à fleurs vertes. Je lui présentai les enquêteurs. Elle les salua d'un signe de tête respectueux, mais déjà, elle se tordait les mains. Je lui tendis la boîte de gâteau. Une étincelle de gratitude passa dans son regard bleu délavé. Puis elle remonta le couloir sombre du rez-de-chaussée pour nous conduire jusqu'au salon, qui occupait l'arrière de cette maison étroite à 2 étages. Elle désigna un canapé marron défraîchi, puis s'employa à déplacer les montagnes de papier qui encombraient la table basse. Elle en déposa une par terre, où elle rejoignit un grand nombre de ses semblables. Phil et Didi regardaient autour d'eux avec circonspection. 6 ans plus tôt, je m'en souvenais, la maison de Brenda Davis était en désordre. Mais désormais, on pouvait parler d'accumulation pathologique. Pour compenser la perte des enfants qu'on lui avait confiés, le vide laissé par la disparition de son mari, le crépuscule de son existence qu'elle devrait désormais affronter seule. Je regardais la cuisine pleine à craquer, le séjour exigu, et regrettais déjà les questions que nous allions poser à cette gentille dame. Son mari et elle avaient fait partie des meilleures familles d'accueil. Elle en était fière, d'ailleurs. C'était pour cette raison qu'on avait envoyé ma sœur chez eux. Sauf qu'au lieu d'aider Shanna à trouver le chemin du bonheur, ils étaient devenus une ruine de plus sur son parcours. Le meurtre de Donnie Johnson avait détruit leur réputation dans le quartier et la foi qu'ils avaient en leur travail. Il me vint à l'idée que Charlize Garzy tenait un bon filon. L'histoire complète de ce meurtre restait à explorer. Toutes ces vies bouleversées, celle de Brenda Davis, celle des Johnson, celle de leurs proches, les Garzy, celle de ma sœur, et maintenant la mienne. Un acte odieux, tant d'ondes de choc. Café? Thé? Proposa Madame Davis. Elle s'était activée dans la cuisine, déplaçant des piles de vaisselle sale, des cruches à eau vide, pour finalement dénicher une assiette propre. Elle y disposa l'assortiment de choux à la crème, cannoli et macarons, puis, précautionneusement, l'emporta de son pas traînant vers la table basse. Phil lui prit aimablement l'assiette des mains. Didi et lui refusèrent le café. Puis, devant son air déconfit, se ravisèrent et affirmèrent qu'un café leur ferait grand plaisir. Le visage de Madame Davis s'illumina de nouveau et elle retourna dans la cuisine pour continuer sa popote dans un espace qui n'avait sans doute vu ni serpillière ni éponge depuis des années. Phil et Didi étaient assis avec raideur sur le canapé. Didi, le bras gauche collé au corps. Je pris le fauteuil relax miteux au bout de la table basse. Sorti de nulle part, un chat tigré orange sauta sur mes genoux. Puis 2 ou 3 autres matous pointèrent le bout de leur nez. Il fallait s'y attendre. Didi se retrouva avec un chat au pelage noir et blanc, les yeux verts, qui donna des coups de museau agressifs à son épaule blessée. Elle le chassa d'un psst. Il sauta par terre et s'éloigna avec majesté, en remuant la queue. « Allons, Tom !» lança Madame Davis depuis la cuisine. « N'ennuie pas nos invités. Aucun sens des bonnes manières, celui-là. Je l'ai recueilli dans la rue quand il était petit et il n'en est pas reconnaissant pour deux sous. Voilà, nous y sommes. » Madame Davis revint et apporta les mugs de café instantané, un par un. Phil se leva d'un bond, sans doute pour échapper à de nouvelles avances de la part de Tom, et lui donna un coup de main. Quand nous eûmes tous repris nos places, Madame Davis s'assit en face de moi. Elle n'avait pas de café et ne toucha pas au gâteau. Les mains jointes sur les genoux, elle attendait, l'air interrogateur. Deux des chats se blottirent contre elle, un de chaque côté, comme des sentinelles. Et ce fut alors que je lus le chagrin dans son regard, profond et pénétrant. Un chagrin que tous les chats et tout le désordre du monde n'apaiseraient jamais. Elle souffrait et acceptait sa souffrance. Assise en face de nous, elle savait que nos questions allaient la blesser, mais elle s'y résignait. « Merci de nous recevoir dans d'aussi brefs délais, commençai-je. » « Il s'agit de votre sœur, vous disiez. » De nouvelles questions sont apparues concernant la mort de Donnie Johnson. Son assassinat, vous voulez dire? Voilà. Les enquêteurs ici présents souhaiteraient vous poser des questions sur cette époque. Sur Shanna, Donnie, le voisinage, tout ça. Madame Davis pencha la tête sur le côté. Elle fit la grimace, sembla hésiter, puis céda avec un petit hochement de tête. Eh bien, ça commence à dater maintenant, vous savez. Mais vous avez de la chance, on dirait qu'avec l'âge, ma mémoire préfère le passé au présent. Si vous me posiez des questions sur la semaine dernière, je ne suis pas certaine que je pourrais vous aider. Mais il y a 30 ans... Elle poussa un soupir. Sur ce qui s'est passé il y a 30 ans, j'ai encore des souvenirs que j'aimerais mieux oublier. Parlez-nous de Shanna, intervint Didi. Madame Davis me lança un regard, comme si elle hésitait sur la conduite à tenir en ma présence. Vous pouvez y aller, la rassurai-je. Je ne nourris aucune illusion sur ma sœur. Vous n'avez pas à craindre d'en dire du mal devant moi. C'est un monstre, répondit aussitôt Madame Davis. Sans émotion, juste un constat. Pourtant, on en avait accueilli des gamins, Jérémia et moi. Des enfants perturbés, tristes, en colère. Des garçons, des filles, tous les âges. On croyait qu'on avait tout vu, qu'on saurait faire face à tout. Nous étions arrogants. L'orgueil est un péché et le diable a envoyé Shanna pour signer notre perte. Vous aviez d'autres enfants à cette époque ? Demanda Phil. 3. Un adolescent, Samuel, qui avait 17 ans et qui vivait chez nous depuis 3 ans. Jérémia l'avait formé et lui avait appris la menuiserie. C'est un problème, vous savez, avec le système de l'aide à l'enfance. Dès que les gamins ont 18 ans, c'est fini. L'État les lâche dans la nature, qu'ils soient prêts ou non. Sam était inquiet pour son avenir, mais Jérémia pensait pouvoir lui trouver un emploi chez un ami. Et nous lui avions dit qu'il pourrait rester chez nous. Nous le considérions comme notre fils. Peu importe ce que pourraient dire les services sociaux, nous n'allions pas lui tourner le dos. « Vous avez encore de ses nouvelles ?» demanda Didi. « Oui, il vit à Alston maintenant. Il passe à l'occasion, mais tout le monde est tellement occupé de nos jours. Et la menuiserie n'est plus ce qu'elle était. Il se déplace beaucoup pour trouver du travail. Je ne le vois sans doute plus aussi souvent qu'autrefois. »